14h04 sur Inter, CO2, mon amour, en direct du festival Zéro Déchet, Zéro Gaspille à Bordeaux. Bonjour Denis Chessot.
Vous êtes très très au point, cher Estelle Schmitt, on est très bien, vous savez, ici à Bordeaux. Tenez, il paraît qu'il y a du monde, il paraît que vous êtes là, mais oui.
Et oui,
tout ça pour vous, chère Estelle, hein, c'est quand même formidable. Il me semble qu'on va vous retrouver, donc on va parler de Bordeaux, on va parler de la métropole, de la Gironde, etc. Et on vous retrouve donc, je pense, pour les informations de 15h.
Vous avez tout compris, Denis, à tout à l'heure.
Au revoir Estelle.
CO2 mon amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour stopper le réchauffement climatique. Rendez-vous sur www.fr.
L'utopie, ça réduit à la cuisson. C'est pourquoi il en faut énormément au départ.
CO2 mon amour, Denis Chessot, sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour, cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Aujourd'hui dans un pays donc de tempérance, nous sommes à Bordeaux avec nos amis de France Bleu Gironde que l'on remercie beaucoup, son directeur technique Christophe Délis, Jean-François Cousson, Antoine Muel donc aujourd'hui à cette technique, assisté de Thomas Lehété et Alice Michaud. Et bien c'est Camille Blanès donc qui réalise l'émission. Et ça commence toujours par une petite humeur. Alors pourquoi venir à Bordeaux alors que notre équipe ne boit que de l'eau du robinet ? Bon, alors je plaisante parce qu'on aime ça, nous les villes d'eau, vous savez, avec sa cité du vin qui ressemble à un carafon que l'on agite. Et puis vous avez des exemples écologiques tout à fait intéressants, par exemple sur les stades, les Girondins de Bordeaux devenus américains, ou bien le rugby avec l'Union Bordeaux de Bègle qui s'est pris un 40-0 face à Toulouse. Donc deux sports qui respectent la biodiversité en évitant de piétiner les fleurs sur le gazon. Voilà, ça ce sont des exemples. Alors tenez, un mini rappel sur cette ville. Vous ici évidemment, vous le connaissez, mais nos amis qui nous écoutent partout en France ne savent peut-être pas. Après 50 ans de Chaban Delmas, donc un homme qui était très très open sur la voiture, en 1995, hop, on change de cavalier, un autre gaulliste, landais, énarque, agrégé, arrive, pose un baiser urbanistique sur la bouche de la belle endormie, je te la secoue, on requalifie le cœur de ville dégradé, on te strangule les pots d'échappement et on respecte un ovni, une chose sur deux jambes que l'on appelle donc un piéton. Et Bordeaux devient la belle réveillée. Alors je suis passé d'ailleurs tout à l'heure à bicyclette devant l'automobile club bordelais sur la place des Quinconces. Ils ont une devanture très triste. Pourrait se recycler en marchant d'antidépresseur parce que vraiment ça n'a pas l'air d'aller très fort du côté de l'automobile club. Il faut bien dire qu'à l'époque, donc c'était ce qu'on appelait la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole. Je te plante de la graine de tramway. Alors on en avait quand même gardé des années 50. Hein, et on construit trois lignes d'un coup. Alain Juppé, lui, d'ailleurs, va lutter contre sa propre majorité, ses services et les commerçants qui sont pro-bagnole. Ça fait râler l'intoxiqué de la voiture pendant 4 ans, mais aujourd'hui, plus personne, me semble-t-il, n'a envie de revenir en arrière. Et puis, résultat de cette rénovation urbaine, oh miracle, la bourgeoisie bordelaise, ce qui est pratiquement un pléonasme, hein, donc celle des Chartrons se met à regarder où ça ? Ah, et ben voilà, de l'autre côté, en face, oui, la rive gauche, regarde la rive droite, cette terra incognita, c'est la révolution, on regarde vers Lormont, Sénon, Foirac, vers cet exotisme, ces villes cosmopolites, et ça marche pas mal, bon, sans pouvoir évidemment effacer toutes les poches de pauvreté. Alors vous me direz, rançon du succès, à Bordeaux, les prix des habitations, ça grimpe, comme la flèche de l'église Saint-Michel ou bien le taux de CO2 dans le monde. Et la question est plutôt aujourd'hui, comment gérer le succès et l'affluence ? On tâcherait d'y revenir. Et puis on est venu là, parce que comme tous les Bordelais, eh ben on aime ce qu'est de la demi-lune, même si notre lune en ce moment est pleine. Cette région d'Aquitaine, dessinée comme un jardin à l'anglaise, avec son océan, son estuaire, ses dunes et sa forêt landaise, avec sa forêt dans les Pyrénées, donc à l'autre bout du jardin, la fontaine, c'est la Garonne. Eh bien, pour l'apprécier, cette Garonne, on a rasé les verrues sur les quais et elle se fait belle, car elle attendait depuis longtemps le regard de ses habitants qui lui tournaient le dos. Alors aujourd'hui, Montaigne, ancien maire dont on a trouvé la tombe dans le sous-sol du musée d'Aquitaine il n'y a pas longtemps, donc Montaigne, Montesquieu, Mauriac, Les 3M ne sont pas venus, ils ont un mot d'excuse pour cette émission, ils le regrettent. Mais vous, auditeurs de France Inter, vous êtes nombreux dans ce hangar 14, dans ce H14, au festival ZZ, zéro déchet, zéro gaspille, organisé par Bordeaux Métropole. Et nous tâcherons de ne pas trop gaspiller le temps de parole au cours de cette petite heure. Donc bonjour Bordeaux, bonjour à tous. Et voilà, et alors nous avons évidemment plein de sujets, ça va être une ronde de sujets donc avec nos différents intervenants. Nous sommes dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Alors c'est très marrant parce que c'est un festival qui a lieu le lendemain de quoi ? Eh ben du Black Friday, qui était quand même une ode à la surconsommation, à la prolifération des déchets. C'est génial cette société. J'ai rajouté dans l'actualité, on a quand même découvert, ça c'est autre chose, mais que quand même les banques françaises financent de plus en plus les énergies fossiles au détriment des énergies donc renouvelables. Donc tout va bien. Alors je vais me tourner vers vous, Hortense Lecouf, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Hortense, bon, pour Zero Waste, vous représentez Zero Waste ici à Bordeaux. Vous êtes la cofondatrice de l'association Zero Waste Bordeaux. Alors là, dans ce H14, dans ce hangar, il y a évidemment plein d'initiatives en tout genre, hein, que ce soit sur le recyclage, que ce soit sur le compostage. Une fois de plus, évidemment, on essaie de réutiliser les choses. Hein. C'est un peu la pensée de Envie, de Emmaüs et de vos tous. Mais dites-nous effectivement, donc, alors, j'ai vu qu'il y avait quand même une majorité assez féminine en ce qui concerne les déchets.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on remarque, même si on a aussi des garçons avec nous, heureusement.
Bah, quand même.
Hein. Oui, un petit peu.
D'ailleurs, ça marche effectivement plutôt pas mal. 550 quand même kilos de déchets par habitant ici à Bordeaux. Il n'y a pas que chez vous. En général, les grandes métropoles, c'est ce chiffre-là. Tout 14 kilos quand même de plus tous les ans.
Oui, et ça, c'est tout flux confondu. Le problème, c'est que sur Bordeaux Métropole, c'est un chiffre qui est en augmentation, alors qu'on est engagé auprès de l'ADEME en tant que territoire zéro déchet, zéro gaspillage, et qu'on a pour objectif de réduire de 1% chaque année.
Bon, donc comment on fait pour sensibiliser les gens ? Parce que comme on dit, les sensibiliser, c'est bien, ils le sont, après c'est le passage à l'action.
C'est ça. Donc nous, on a plusieurs actions. On propose des stands d'animation pour montrer un petit peu les objets, pour réduire personnellement chez soi les déchets. Mais on a aussi des campagnes d'action pour aller voir les commerçants, parler aux scolaires. Et voilà, on a plein de choses qui se mettent en place.
On va cliquer, Hortense Lecouf, sur les commerçants. C'est extrêmement important. J'ai bien compris que le commerce, ça marchait pas trop mal ici à Bordeaux. Mon commerçant zéro déchet. Donc comment fait-on ?
Alors, c'est une campagne qui a été lancée par le réseau national Zero Waste France et qu'on a relayée dès notre création sur Bordeaux, puisque ça nous tient beaucoup à cœur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de tonnes d'emballages qui sont mises sur le marché français chaque année et qu'il y a une très petite partie qui est recyclée. Donc, il y a vraiment un enjeu de réduire au maximum ces emballages.
Et pourtant, il y a une obligation maintenant quand même.
Oui. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'attaquer. Nous, on va voir, en fait, on propose une démarche pour les commerçants, pour les aider à réduire à la fois les emballages, le gaspillage alimentaire.
Alors, quels sont les arguments pour un commerçant qui n'est pas forcément très sensibilisé à ça ? Donc, qu'est-ce qu'on lui dit ?
Alors, ils sont multiples. En fait, ça va... Et c'est peut-être l'argument qui va le plus l'intéresser, c'est que ça va lui permettre de réduire ses coûts. Il faut savoir qu'une poche à pain, ça coûte entre 3 et 5 centimes. Donc si on fait le calcul sur une journée, une semaine, une année, on arrive forcément à des coûts qui sont considérables. Et voilà, si on va chez son boulanger avec sa propre poche, son propre sac, on permet à son commerçant de faire des économies.
Donc il faut sensibiliser à la fois bien sûr le commerçant, qui lui-même aussi se resensibiliser, donc le client.
Voilà, c'est ça. Ouais. Nous, on va essayer de mettre en valeur les commerçants qui sont impliqués dans cette démarche-là. Et ensuite, c'est aux commerçants de parler à leurs clients chaque jour pour réduire les emballages.
Alors, pour rester dans le domaine des déchets, à côté de vous, Nicolas Sénéchaud, vous êtes le directeur du SMICVAL. C'est un merveilleux acronyme. C'est le syndicat mix intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais. Donc là, évidemment, on est au nord de la Gironde. Et ce qui nous intéresse, Nicolas Sénéchaud, c'est que vous nous parliez de ce SMICVAL Market. C'est-à-dire que moi, je vais rentrer dans votre magasin. Et là, ça va toucher non pas l'alimentaire, mais ça va toucher les matériaux de construction et de destruction. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ?
Bah écoutez, imaginez qu'au lieu de jeter en déchetterie, on vous invite à apporter vos déchets dans un supermarché.
Ouais.
Et que vous-même, vous apportiez ces déchets dans des rayons, bricolage, jardinage, cuisine, enfance. Alors, si c'est des matériaux, par exemple, de construction, dans un rayon menuiserie ou maçonnerie. Et puis, quand vous avez déposé ces déchets, bah, vous pouvez aussi... avec votre caddie, hein, puisque vous êtes dans un supermarché, bah, récupérer tous les objets que vous avez envie et tout ceci
donc,
gratuitement.
C'est un échange, hein. Il n'y a pas de commerce là-dessus qui s'opère. Mais ça veut dire que, mettons, je vais arriver avec 4 carreaux que je ne vais pas utiliser, mais il ne faut pas évidemment qu'ils soient cassés en 12 morceaux. Donc c'est ça, je vais redéposer dans vos rayons.
Oui, c'est ça. En fait, vous les redéposez dans un rayon comme... Vous faites exactement le geste inverse que vous avez fait quand vous avez acheté ces carreaux. Sauf que, en général, prenons l'exemple des carreaux, il va vous rester, je sais pas, une dizaine de carreaux. Mais vous les replacez dans un rayon, le même rayon que dans un magasin de bricolage. Et ces carreaux vont être réutilisés par quelqu'un d'autre.
Mais alors ça fonctionne vraiment bien, parce que 90% du temps, je vois qu'il n'y a aucune intervention sur la qualité des objets.
Non, pratiquement pas. Les utilisateurs apportent des objets qui sont pratiquement tout le temps en très bonne qualité.
Oui.
Et les déposent assez naturellement dans les rayons, se trompent assez peu. 90% sont de très bonne qualité.
Alors c'est quoi ? Ça peut être aussi du bois, ça peut être de la peinture, des gouttières, que sais-je ?
Ah oui, le bon exemple de la peinture, qui n'a pas peint et puis penser pouvoir réutiliser son pot de peinture 6 mois après.
C'est-à-dire que soit on pense à la déchetterie, soit on le garde, et là ça va rester 3 ans et demi chez vous, et ce sera sec.
Voilà, et puis quand vous en aurez besoin, ça sera
terminé.
Voilà, ça sera plus, voilà. Bah, vous pouvez venir le déposer dans le rayon peinture, et puis un autre usager pourra venir le récupérer et le réutiliser, la peinture.
Et alors Nicolas, ça vient comment ce genre d'idée là ? Parce que je sais bien que c'est votre truc, mais...
L'idée... On pensait que la déchetterie, c'était un équipement qui était à bout de souffle. Quand vous arrivez dans une déchetterie, vous êtes pressé. En général, vous n'avez pas envie de rester plus de 7 à 8 minutes.
Ah oui.
Vous avez envie de jeter, vite. Et trier, ça reste accessoire. Vous le faites peut-être, mais bon, voilà. Et ça, c'est un peu une...
49% des Français trient véritablement en France. On en a 70% en Allemagne. Voilà.
C'est un peu la spirale de la défaite, une déchetterie. Et ce qu'on voulait, nous, c'est vraiment rendre ludique, sexy, positif le monde des déchets.
Voilà, donc vous pouvez être sexy, ami bordelais, donc avec des gouttières, avec des carreaux. Non, mais c'est vrai. Alors, non, attendez, le résultat, je plaisante, Nicolas, mais le résultat quand même. D'abord, il y a eu création de liens sociaux aussi avec cela. Et puis, 1500 tonnes échangées en un an.
Oui, c'est ça, en un an, 1500 tonnes échangées, 50% de moins de déchets destinés à l'enfouissement, c'est-à-dire définitivement éliminés. Et puis, vous l'avez dit, hein, du lien social, les gens, ils restent 30-40 minutes sur le site. Ils discutent, ils échangent des légumes, ils échangent des... En fait, ils créent de nouveaux flux d'ailleurs sur le site. Donc très intéressant, vraiment un créateur de liens sociaux.
Alors nous sommes à Vert, hein, pour être précis. Voilà, donc nous sommes à Vert, donc avec vous, Nicolas Sénéchaud, et donc ce Smigval. Et puis évidemment, tout ça, il y a des matériaux dont on a besoin. On a besoin évidemment de gravier pour fabriquer tout cela. On a besoin de sable. Et le sable, parfois, il ne va pas très, très, très fort. C'est pour ça que je vais me tourner vers vous, Nicolas Bernot, parce que vous êtes ingénieur au BRGM et vous vous occupez donc des risques côtiers à l'Observatoire de la côte Aquitaine. Donc là, on élargit un petit peu. On voit cette grande côte sableuse Aquitaine qui est urbanisée depuis les années, donc on va dire 70, qui est opposée donc au recul du trait de côte. L'Allemagne, c'est vrai, à une époque, a laissé de belles habitations dans les années 40, vous voyez, donc c'était des blocos qui ont été construits d'abord sur la dune, puis après ils se sont retrouvés sur la plage. On a eu à peu près le même sort avec l'immeuble Le Signal qui se trouve à Soulac, donc dans le Médoc, ça vous êtes parfaitement au courant. J'allais presque dire que en fait ces traits de côte, ils bougent, parce que si on se retourne 18 000 ans en arrière, c'était quoi donc la côte aquitaine ?
Alors la côte aquitaine, il y a 18 000 ans, en effet, elle était à plus de 150 km de la côte actuelle. On avait une immense plaine sableuse et sur laquelle le trait de côte s'est mis à remonter petit à petit avec l'élévation du niveau marin. Et ce niveau marin s'est stabilisé il y a environ 6 000 ans. Autour de la position actuelle.
Alors aujourd'hui, donc, on constate que ça bastonne un petit peu plus parce que peut y avoir des reculs qui pourront aller jusqu'à 20 mètres. Alors on va dire que la moyenne c'est 2 mètres et demi, ça c'est une moyenne, mais quand même. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il y a plus d'énergie de toute façon dans le système. Qu'est-ce qui fait que ça bouge davantage ?
Déjà, d'une manière générale, il y a plus d'enjeux sur la côte puisque notre côte s'est urbanisée, comme vous l'avez dit, à peu près à partir des années 70 sur la côte sableuse aquitaine. Et aujourd'hui, voilà, à l'époque, ces enjeux étaient situés à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres du trait de côte. Sauf que la côte, elle est vivante, elle évolue, le trait de côte recule et ses enjeux aujourd'hui sont plus menacés.
Alors vous avez besoin vraiment de suivi continu, hein. C'est pas ponctuel au BRGM, vous avez vraiment besoin de suivi continu là-dessus. Et alors en général, on dit bah faut s'adapter. Et quand on dit faut s'adapter, bah oui, c'est mon voisin qui doit s'adapter, mais c'est pas moi. Mais il y a quand même des stratégies qui doivent être mises en place aujourd'hui par les collectivités.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont donc directement menacés, hein. Si on a un hiver tel que 2013-2014 qui se produirait actuellement, on aurait environ 90 logements qui seraient menacés directement. Donc il est nécessaire de repenser le territoire ou trouver des stratégies pour voilà, éviter ces catastrophes.
Alors c'est quoi ? C'est de donner à manger à la mer ? C'est du génie écologique ? C'est
exactement,
c'est l'inaction ?
C'est tout ça, c'est tout ça. Les collectivités, hein, des communes telles que Lacanau, Cap-Breton, Lèche-Cap-Ferré, étudient ces différentes solutions dans des stratégies locales avec tout un tas de partenaires, l'État, la région, etc., qui vont voilà, de l'inaction, c'est-à-dire on ne fait rien et ça recule, ou bien on accompagne les processus, ça recule, mais on surveille et on essaye de limiter les reculs. Ce qu'on appelle de la lutte active souple, qui va être voilà, donner à manger à la mer, recharger la plage pour que ça grignote, mais moins rapidement. Ouais. Ou bien la lutte active dure, par exemple, qui va avoir pour objectif de fixer le trait de côte.
Alors, vous avez parlé donc de Lèche-Cap-Ferré. Je tiens à préciser. Donc là, on est dans une presqu'île que connaissent bien nos amis ici, donc celle du bassin d'Arcachon. Le maire s'est quand même fait retoquer son PLU par l'État, parce qu'il continuait gentiment donc, à urbaniser. Youpi, tout va bien. Pauline Boyer est avec nous, qui connaît ces sujets, on va dire, aussi environnementaux, mais pas que. Donc, Pauline, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes donc journaliste indépendante, vous travaillez aussi pour Le Figaro donc localement. Il y a des enjeux économiques évidemment colossaux derrière tout ça.
Et oui, évidemment, on le sait, on voit bien l'image du bassin d'Arcachon avec ses grandes et belles villas. On sait que voilà, il y a des propriétés au Pilat-sur-Mer aussi, au Cap-Ferré. Enfin voilà, il y a des enjeux économiques colossaux, et c'est pour ça que ça pose problème. C'est pour ça que le sujet est compliqué à traiter, notamment pour l'État. On le voit avec le Signal. Il y a eu des gros débats concernant l'indemnisation des propriétaires. Je crois
donc
que l'État,
Lacanau, oui.
Oui, voilà, le Signal à Soulac-sur-Mer. Je crois que l'État, là, on va vers une solution politique dans les prochaines semaines, mais L'État, pendant longtemps, s'est opposé à une indemnisation parce que, voilà, il ne voulait pas créer de précédent. Si vous voulez, on ouvre la boîte de Pandore et commence à indemniser les propriétaires en fonction de la valeur des biens actuels.
Et ce n'est pas les seuls. Hein,
voilà, ce n'est pas les seuls. Sur le bassin d'Arcachon, notamment au Cap-Ferré, on sait qu'il y a beaucoup de villas qui sont très, très en danger. Hein. Il y a beaucoup d'imprévus. Il le disait... Voilà, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que les tempêtes peuvent créer dans les prochaines semaines.
C'est pas des Algeco, quoi. Enfin, donc,
voilà, c'est ça. C'est des villas, on le sait. Les prix de l'immobilier dans ces zones-là sont parmi les plus chers de France. Hein. Donc les enjeux économiques colossaux, et même sans aller sur le bassin d'Arcachon, à Lacanau, qui fait partie de ces villes qui ont élaboré des stratégies pour l'avenir, voilà, ils se sont posé clairement la question du recul, et là ils ont commencé à chiffrer le nombre de logements et de commerces qui devront reculer, et là on voit que la note est très très salée.
Ça devient extrêmement chaud. Je vous propose une première chanson qui n'est pas... Ah, c'est presque bordelais comme chanson. Vaudou Game, oui, on va la découvrir.
Travaille tous les jours pour gagner la misère. Si vous pensez qu'il est urgent de ne rien faire, que le monde et l'environnement sont en pleine forme, eh ben alors n'écoutez pas Denis Chessou et CO2 mon amour. Ne vous faites pas de mal.
Et voilà, mais non, mais on va pas se faire du mal parce qu'on essaye d'avoir l'environnement un petit peu joyeux malgré toutes les heureuses nouvelles. En direct donc de Bordeaux, de ce festival ZZ, zéro gaspille, zéro déchets, ce que nous essayons les uns les autres dans cette société complètement démente dans laquelle nous sommes, de trouver un certain nombre de solutions. Pauline Boyer, tiens, tenez, effectivement, quand on parle de Bordeaux, on pense évidemment en vignes, donc joie, bonheur. Plus de 110 000 hectares aujourd'hui, 8 000 entreprises, 6 000 viticulteurs. Alors qu'ils font quand même des choses. Hein. D'abord, effectivement, juste savoir que dans notre grande série des pesticides, c'est pas les herbicides, parce qu'on est enherbé quand même à 85%, donc c'est pas tellement là que ça se passe. En revanche, c'est vrai que Génération Future a sorti donc une étude tout à fait récente sur les données officielles 2017 qui sont issues des bases de données des ventes des distributeurs. Donc ça marche plutôt bien les pesticides chez vous. C'est-à-dire qu'il y a l'Aube d'abord quand même, après il y a la Gironde, il y a la Marne, il y a le Vaucluse. Bon, et on sait très bien que maintenant il y a des associations, des gens qui ont bougé parce que se faire arroser de temps en temps par les pesticides, même si on adore les vignes et le pinard, ça pose problème. Où est-ce qu'on en est donc aujourd'hui ?
Alors effectivement, c'est un des gros sujets de la région. On pense de suite au vin à Bordeaux. Vous avez cité ce classement qui a été sorti par ONG Génération Future il y a quelques jours. Donc la Gironde est deuxième derrière l'Aube. Donc évidemment, région de vignes, région de pesticides.
Normal.
Alors c'est un sujet qui fait beaucoup de débats et qui est même limite tabou, on peut dire, hein, dans la région, même si...
Pas chez nous, hein, donc.
Non, pas de tabou ici, même si, voilà, c'est régulièrement à l'ordre du jour du CIVB, qui est le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux.
Et qui fait avancer ses troupes, hein,
qui
le
fait
dire.
Avancer. Alors, ah, c'est oui, vrai qu'il faut dire qu'il y a eu quand même un déclic qui a été l'émission Cache Investigation en 2016,
oui,
qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit à Bordeaux, beaucoup de mal même, je dirais. Et à la suite de ça, bon, ben, voilà, les associations étaient déjà fédérées depuis longtemps, mais à la suite de ça, le CIVB a réagi, ouais. A dit quelques mois plus tard, officiellement, et c'était historique, qu'il voulait sortir des pesticides. Mais bon, en attendant, c'est quand même compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, on compte plus de 8000 viticulteurs. Voilà, on ne change pas comme ça un modèle économique.
Quand vous avez des printemps pourris aussi...
C'est ça. Voilà, alors, effectivement, il faut trouver des solutions. Alors, il y a
beaucoup
de
recherches. Même le bio, si vous voulez, utilise des bouillies bordelaises. Hein, donc,
voilà, ouais. C'est ça. Le soufre, il y en a beaucoup qui s'est décrié. Il y en a beaucoup qui commencent à dire aussi, à revenir et à dire le soufre fait autant de mal à long terme à nos vignes. Voilà, c'est très, très compliqué. On ne sort pas comme ça d'un modèle d'agriculture et d'économie qui a fait ses preuves pendant des décennies. Donc voilà, les associations environnementales disent que le CIVB, voilà, c'est un écran de fumée, que le calendrier n'est pas précis, pas assez rapide.
Non, ils font des choses.
Mais ils font des choses, ouais. Et surtout, il faut beaucoup de temps pour convertir aussi les viticulteurs.
Alors, ce que l'on va rappeler aussi, c'est que quand même, avec l'urbanisation, de plus en plus, il y a eu certaines terres donc, qui se sont vendues. Donc ça veut dire que les habitations se sont rapprochées donc, aussi des vignes. Voilà, c'est aussi ce mélange-là qui n'est pas, qui
et
est
oui,
pas simple.
Oui, c'est le gros enjeu, parce que Bordeaux, et on vous l'avait un petit peu dit dans votre introduction, est saturé. Donc les gens, ils vont à la périphérie, ils recherchent un petit peu de verre, ils recherchent des logements accessibles, donc ils vont à la périphérie. La périphérie, dès qu'on s'éloigne de Bordeaux, ici, ce sont les vignes, hein, oui. On y est très vite. Donc voilà, il y a eu plusieurs polémiques ces dernières années, notamment de problèmes de santé, des écoles où des élèves ont été incommodés, ont été malades à cause d'épandages de pesticides. Donc voilà, c'est très très compliqué ici, très très sensible comme sujet.
Merci chère Pauline Boyer, donc vous intervenez comme vous le souhaitez. Une maison éco-citoyenne sur les quais et dans cette maison éco-citoyenne. Jusqu'il n'y a pas longtemps, nous avons une Camille Choplin qui s'en est occupée et qui a créé Ecolo Girls à Bordeaux. Voilà, chère Camille. Et vous avez sorti d'ailleurs aussi cet ouvrage, alors là, il n'y a pas longtemps, aux éditions Hugo et compagnie, qui s'appelle « Tout le monde ne raffole pas des brocolis ». On est bien d'accord, c'est une très très bonne entrée donc, en matière. Alors, je vais vous le dire, c'est vrai que je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu complètement, mais c'est l'histoire de trois femmes, trois âges, trois sensibilités qui sont complètement différentes, mais sensibles à l'écologie. Donc, elles vont apprendre à se connaître les unes les autres, petit pas par petit pas. Et puis, on va dire qu'elles vont prendre conscience qu'en étant plusieurs, en faisant sa petite part de colibri, bah, c'est peut-être mieux aussi pour faire avancer les choses. Alors racontez-nous, parce que vous êtes vraiment au fait aussi avec votre blog Ecolo Girl de plein de choses qui se passent. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ici dans ce festival et à Bordeaux, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Bah, c'est vrai que Bordeaux bouillonne d'initiatives écologiques et c'est un vrai plaisir de de chaque jour rencontrer des gens qui ont des super idées. Je pense par exemple à Circouleur. On parlait tout à l'heure de la peinture avec le Smigval.
Alors Circouleur, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est deux jeunes femmes qui récupèrent en fait les pots de peinture et qui recréent de la peinture. Donc pour éviter d'incinérer la peinture, elles vont recréer des pots de peinture qu'on va pouvoir retrouver après dans des grandes surfaces.
Alors je rappelle que c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'on a quand même, alors c'est une réalité, mais on ne parle plus d'incinérateur, on parle d'unité de valorisation énergétique. Enfin, oui. N'empêche qu'on les crame.
N'empêche qu'on crame 25 millions de litres par an, quoi.
Ah oui.
C'est horrible, on crée de la peinture et on la brûle derrière, donc ça n'a pas de sens.
Donc Circouleur, on les recycle. Initiative. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On recycle aussi du pain, les boulangers qui ont du pain invendu à la fin de leur journée. Explicite, c'est pareil, une jeune entreprise qui a créé une machine à broyer le pain et qui fait de la farine. Et avec cette farine, les boulangers peuvent refaire des gâteaux et des biscuits.
Alors je vois qu'il y a aussi un réfrigérateur anti-gaspi que l'on met sur les trottoirs. C'est quoi ça ?
Alors ça existe dans pas mal de pays, en Allemagne notamment, et à Bordeaux, le premier est porté par le CREPAC qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc on peut venir déposer de la nourriture si on a des restes qu'on n'a pas envie de manger, et on peut récupérer de la nourriture soi-même.
Sur la pollution lumineuse, est-ce qu'on est mieux ? Est-ce qu'on n'est pas mieux que les autres ? Parce que à 3h du matin, j'imagine qu'il y a des enseignes qui sont allumées. Donc,
Oui,
bien sûr.
Ça, c'est un vrai
sujet.
Parce
qu'on passe tous à 3h du matin pour effectivement se choper une marque dans les yeux, et c'est important de ne pas éteindre, c'est ça. Donc, oui. Non, mais je vois qu'il y a aussi peinture lumineuse pour les pistes cyclables.
Oui, ça c'est pareil, une start-up qui a mis ça en place il n'y a pas longtemps. Donc ils ont peint en fait la bande cyclable avec de la peinture photoluminescente. Donc dans la journée, elle absorbe la lumière du soleil, et pendant la nuit, elle la restitue. Donc ça fait des économies d'énergie, je trouve ça une super initiative.
Mais ça bouge pas mal quand même. Est-ce que c'est quand même un terroir où on est sensibilisé ?
Je voulais vous parler de Supercop aussi, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est mon supermarché. Je suis propriétaire de Supercop, j'ai pris des parts, et en fait c'est un supermarché coopératif. Donc plutôt que donner mes sous à Michel-Édouard Leclerc, je les donne à un projet coopératif, et chacun donne 3 heures de son temps pour participer à la vie du supermarché. On prend des parts pour pouvoir faire ses courses, et on accède à des produits d'extrêmement bonne qualité pour moins cher, et on a un lien direct avec les producteurs. Donc on est vraiment dans la boucle est bouclée là, c'est tout.
Bordeaux, évidemment, ville cyclable, ça faut le dire, appartenant au club des villes cyclables, ça marche quand même bien. Moi j'ai testé déjà depuis de nombreuses fois, mais encore ce matin. Remue-ménage pour faire du déménagement à vélo.
Oui. Ça, on les voit tout le temps passer avec leur petite bicyclette et leur remorque. Bah, ils viennent chez vous déménager à vélo.
Enfin, ils ne vont pas faire 100 km quand même.
Ils ne vont pas faire 100 km.
Voilà,
non, mais pour des petites distances et des petites charges, c'est intéressant.
Voilà. Donc, c'est plein d'idées. Et puis, il y a votre ouvrage. Hein. Tout le monde ne raffole pas des brocolis, là, chez Hugo et compagnie. Ça marche bien. Donc, c'est le premier roman qui va vous faire voir la vie en vert.
C'est une comédie romantique. Donc, c'est vrai qu'on traite de l'écologie positive de façon joyeuse. On passe un bon moment de lecture. Et en même temps, on apprend plein de choses. Enfin, c'est mon objectif, en tout cas.
Romantisme et écologie.
C'est un peu romantique. Faut l'avouer. Je vise beaucoup les femmes, on l'a dit avec Zero Waste, c'est quand même beaucoup les femmes qui portent le changement.
Oui,
et moi je m'adresse aux femmes qui sont un peu sensibilisées mais pas trop, et qui ont envie d'aller plus loin, et j'espère qu'elles vont découvrir plein de choses pour le quotidien.
Et vous les portez vraiment aussi très fortement sur un sujet quand même qui est santé et environnement. Ça, c'est beaucoup plus porté par les femmes que par les hommes. Et ça bouge beaucoup. Pauline Boyer.
Camille parlait des femmes et de Bordeaux. Elle est à l'initiative avec une autre bordelaise d'un groupe Facebook. Je crois qu'elle va me corriger peut-être, mais je crois qu'on est à près de 4000 participantes, qui s'appelle les Écolo Girls de Bordeaux. Et je peux vous dire que voilà, c'est une source, une manne d'informations et de débats sur l'écologie qui est la preuve, encore une fois, que Bordeaux est assez dynamique en la matière. Et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance, et c'est vraiment sympa.
Alors, nous allons passer sur la rive droite, parce que là, nous sommes tranquillement donc sur la rive gauche. J'en parlais donc tout à l'heure. Et vous avez ce lieu qui est un petit peu incontournable, qui s'appelle Darwin. Remercions ce monsieur Darwin qui a quand même donné le nom donc à ce lieu, cher Philippe Barre, parce que donc vous êtes à l'origine, vous n'êtes pas le seul, mais de ces 47 000 mètres carrés. Donc l'état d'esprit déjà de Darwin, ce lieu au départ qui devait être éphémère et qui l'est de moins en moins. Donc qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ?
C'est un lieu où on essaye de faire plus avec moins, de montrer qu'on peut faire mieux avec peu. Donc on est vraiment dans cette logique de réduire le gaspillage, réduire nos déchets, mais aussi l'énergie que l'on consomme, la meilleure énergie renouvelable, c'est l'énergie qui n'est pas consommée. Et on a essayé de regrouper de nombreuses activités, des coworking, des commerces bio responsables. On recycle 80% de nos déchets. On a 100% de notre énergie qui est de notre énergie électrique qui est 100% renouvelable. On a un skatepark, une ferme urbaine. On fait un peu d'accueil d'urgence. On a le bric-à-brac Emmaüs. Tout ça se mélange de manière assez généreuse et agile. Voilà.
Alors au départ, donc, on vous a laissé faire, parce que c'est vrai que des gens de sensibilité politique différente, comme Vincent Pelletès d'un côté et Alain Juppé de l'autre, donc on dit bon, ok, allez-y. C'est vrai que c'était très attractif hein, pour de l'autre côté, sur la rive droite, ça fait partie aussi un peu de l'identité, on va dire, écologique de Bordeaux. C'était sur quoi? Sur des anciens entrepôts, sur des anciens magasins? Qu'est-ce que c'était?
C'est une ancienne caserne militaire. C'est resté une caserne pendant plus de 100 ans, et ça a été à l'abandon pendant près d'une dizaine d'années. Et on a voulu prouver qu'on pouvait réhabiliter ces bâtiments qui étaient voués à la destruction au départ. Et on a prouvé qu'on peut émettre 6 fois moins de gaz à effet de serre que dans un éco-quartier classique, en réhabilitant de l'ancien. On prouve aussi qu'on peut conserver notre patrimoine qui est généreux en termes de volume, et où on peut faire de l'intensité plutôt que de la densité. L'intensité urbaine, c'est très certainement l'enjeu d'avenir pour nos métropoles et pour nos villes. On essaye de défricher ça, on avance petit à petit, on fait certainement quelques erreurs, on les corrige, et on essaye d'avoir l'imagination du doute surtout.
Alors ça, c'est important. Bon, sans faire polémique monstrueuse, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu chaud pour vous. Une médiatrice donc a été nommée parce que en fait ce lieu éphémère certes l'est de moins en moins, mais quand même vous êtes sur des terrains, une partie des terrains qui appartiennent donc à Bordeaux Métropole Urbanisme qui souhaite aussi se développer. Ça devait le deal, c'était bon, ok, vous y allez pendant un certain temps, puis peut-être qu'après on va reprendre une partie des terrains. Donc voilà, c'est un peu chaud.
Oui, c'est très chaud, oui. Mais on est déterminé. On sait que on est plutôt dans une dynamique d'avenir face à un projet qui est plutôt un projet du passé. On a de nombreux soutiens avec une pétition qui a montré que énormément de Bordelais souhaitent voir ce lieu continuer. Et on va continuer à essayer de faire pédagogie pour faire comprendre que les près de 800 emplois sur site, 1200 à l'échelle métropolitaine, les 15 000 usagers, les 8 000 adhérents ont besoin de cet endroit-là. On a restitué 20 000 m² d'activités qui se sont arrêtées. Nous pensons avoir fait notre part de compromis et nous allons continuer à aller de l'avant. Parce que nous avons besoin de laboratoires de ce genre. On fait partie d'un archipel des consciences qui se développe partout autour de la planète, et on en a besoin dans nos villes et aussi dans nos campagnes.
C'est vrai que c'est un laboratoire d'idées, c'est absolument incontestable. Pauline Boyer.
Oui, c'est un laboratoire, et puis aussi on parle beaucoup de Bordeaux écolo, mais Darwin participe quand même beaucoup du rayonnement de Bordeaux sur cette thématique-là. Hein. Ça fait quand même partie des symboles. Donc c'est pour ça que le sujet est sensible à Bordeaux. Voilà, Philippe Barre l'a expliqué, et vous aussi, il y a une médiation qui est en cours. Je pense qu'une issue, il le dirait mieux que moi, acceptable peut-être, est en train de se profiler. Chacun doit faire des compromis, mais comme il le disait, il y a une opposition en fait entre une vision à court terme d'un projet immobilier, parce qu'il y a des besoins immobiliers à Bordeaux, vous l'avez souligné en introduction, Bordeaux sature un petit peu, et puis un projet comme ça, une vision à long terme, une vision éthique, voire même philosophique, hein, d'un nouveau modèle. Qui a fait ses preuves, il l'a dit, il y a des emplois, c'est pérenne. Mais voilà, finalement, chacun est dans son rôle. Bordeaux Métropole Aménagement est dans son rôle et sans doute voudra aller jusqu'au bout. Et Philippe Barre et Darwin sont dans leur rôle aussi et défendent bout, leur... Je pense qu'ils vont, de toute façon, ils ont récupéré, enfin, ils doivent de toute façon récupérer, je crois, l'allée Cavalière. Enfin, ça passera dans le domaine public, Alain Juppé pense.
Nous, on souhaite que l'allée Cavalière soit reconnue comme domaine public.
Voilà, c'est ça. C'est l'allée, en fait, qui relie les quais au futur quartier, qui aujourd'hui est emblématique de Darwin. Ça fait partie, enfin, voilà, d'un lieu de. Ça fait partie du lieu, hein, les gens.
Et on peut y aller à cheval.
Vont et viennent. Oui, tout à fait. Okay, je pense, Philippe Barre ne doit pas s'y opposer. Est-ce qu'on y aille à cheval?
Non, mais sûr que non.
Mais en tout cas, il va y avoir des compromis à faire sans doute des deux côtés pour que le lieu garde son identité.
Alors on va poursuivre donc ce voyage au sein de Bordeaux, de la métropole et aussi de la Gironde. On va vous parler dans quelques instants donc d'hydroliennes. éoliennes. Ah ouais, intéressant. Donc on va parler d'énergie, mais oui, absolument, chère madame. Et puis nous allons donc aussi parler avec Michel Duchesne, aussi de l'évolution. Je le disais un peu en préambule, c'est Bordeaux victime de son succès. Qu'est-ce que l'on fait demain avec de plus en plus d'attractivité? Silence, mystère, allons-y, et chanson peut-être.
CO2 Mon Amour, Denis Chessoux, sur France Inter.
Voilà, et puis là c'était Étienne Dao. Alors il est pas bordelais, hein. il est né à Oran, Étienne Dao, et puis il s'est rapproché. Rennes n'est pas si loin que ça, en définitive. Voilà, donc toujours en direct dans ce festival ZZ. Ici, donc, CO2 Mon Amour, sur France Inter. Philippe Barre, je sais que vous avez une manifestation avec Emmaüs, là, très très vite, vous pouvez l'annoncer sans problème.
Oui, on a le forum Emmaüs tout le week-end à Darwin, avec un salon Emmaüs qui est là pour... aider Emmaüs à aider. On a aussi la plateforme citoyenne Place Publique à 17h. Voilà, il se passe des choses tout le week-end à Emmaüs.
Bon, c'est parfait. Et puis la semaine prochaine, il y aura aussi une marche pour le climat qui va commencer sur l'emblématique miroir d'eau. Je tenais à le dire. Donc ça, ce sera la semaine prochaine, samedi. Alors, Pauline, je parlais du vélo. C'est vrai que c'est quand même assez agréable. Hein. On se fait pas écraser, les gens vous insultent pas. Il y a eu un véritable plan vélo.
Oui, il y a eu beaucoup de choses faites autour du vélo de la métropole. Alors, il faut dire qu'au début, on ne sait pas trop si ça a été subi ou voulu. C'est vrai que le vélo, beaucoup de Bordelais s'y sont mis parce qu'il y avait des travaux, qu'il y avait une saturation. Hein, quand toute la ville a été complètement recomposée à partir des années 2000, les travaux du tramway, ça a été très, très bouché. Et donc, on s'est mis au vélo à Bordeaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie culture vélo, je pense. Et puis, la métropole travaille beaucoup. Il y a eu le prêt de vélo depuis 2001, le Vécube ensuite. Enfin, voilà, il y a eu plein de plans un petit peu emblématique. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Le pont de pierre, il y a un peu plus d'un an, a été dédié entièrement aux cyclistes. Aux marcheurs et aux tramways. Oui. C'est emblématique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ponts comme ça qui ont été 100% dédiés au vélo.
Et ça, c'est pas une initiative de Napoléon.
Non. Il aurait validé peut-être. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie culture vélo. Et la métropole a mis en place dernièrement son deuxième plan vélo. vélo avec un... Je suis en train de chercher, mais je crois que c'est 70 millions d'euros de budget. Et Alain Juppé se vante d'avoir un plan vélo plus ambitieux que celui de Macron. Donc, c'est vous dire...
Oui.
Voilà, il y a beaucoup de structures qui vont être mises en place, beaucoup de rues qui vont passer à la vitesse 30, des arceaux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de... Des prêts de vélos encore qui vont être multipliés. Il y a beaucoup de choses qui sont faites.
On voit tous les âges. Hein. Moi, je l'ai vu ce matin encore. On la voit tous les âges, donc à bicyclette. Vous avez évoqué le pont de Pierre. Le pont de Pierre est aussi un lieu tout à fait intéressant et d'expérimentation. J'appelle la Garonne. Est-elle présente ? Oui, elle est là avec ses plus de 640 km. Autre Garonne qui prend sa source au massif de Maladeta ou bien du côté du Val d'Aran, parce que là, il se tire un petit peu la bourre de ce côté-là. Mais elle donne donc après de l'eau aux centrales. Du Blayais, Golfèche, certes, mais elle se dit j'ai aussi besoin de fabriquer de l'énergie renouvelable, cette Garonne. Et là, elle va arriver près du pont de Pierre et donc Marc Lafosse, vous qui êtes à la tête de Énergie de la Lune, très joli rappel de la demi-lune, duquel la demi-lune où nous sommes, dites-nous ce que vous faites parce que vous avez donc immergé des hydroliennes. Racontez-nous.
Exactement. Et donc depuis 1822, on a la chance d'avoir un pont commandé par Napoléon. À l'époque, on ne savait pas franchir les fleuves avec des grands tabliers, donc il y a 15 arches. Et ces 15 arches, elles accélèrent le courant, ces piles et ces arches, elles accélèrent le courant. Donc on a imaginé, il y a quelque temps, pouvoir y installer des hydroliennes, donc des sortes d'éoliennes subaquatiques qui vont produire de l'énergie électrique avec des pales qui sont en mouvement par les flux et reflux du fleuve, puisqu'à cet endroit-là, nous sommes sous influence de marée, donc on a du montant et du descendant. Et donc depuis un peu plus de 10 mois, nous avons la chance de tester une hydrolienne qui est venue à cet endroit-là pour justement comprendre son impact environnemental, son ambition énergétique, ce qu'elle produit comme énergie sur le réseau électrique bordelais, puisque chaque électron qui est produit à cet endroit-là est envoyé sur le réseau électrique, et puis comprendre aussi mécaniquement. Pourquoi toutes ces questions ? Tout simplement parce que cette filière, elle est en émergence, elle n'est pas encore sur étagère, comme on a l'habitude de le dire.
On a eu une hydrolienne qui a été immergée au large de Ouessant.
Tout à fait. Alors, on a différents types d'hydroliennes. On a des hydroliennes qui vont dans les mers, donc qui ont des tailles assez importantes. Et puis des hydroliennes qui vont dans les fleuves, qui sont dans des tailles un peu intermédiaires ou plus petites. Et ici, on a la chance d'être sur un estuaire, donc on peut faire un peu une taille intermédiaire. Donc ces deux marchés viennent se confronter et on apprend tous en marchant pour progresser, pour être compétitif. Donc l'idée, c'est que ce soit un laboratoire à ciel ouvert et que tous les jours, ces développeurs puissent s'appuyer sur un savoir-faire bordelais constitué de plusieurs professionnels de l'environnement, de l'énergie, de la mécanique, du financement ou du développement de projets pour que cette filière, elle émerge et qu'elle soit compétitive dans quelques années dans un mix énergétique.
Donc on est là pour vraiment perfectionner ces hydroliennes. Et alors, la Garonne est intéressante parce qu'elle est quand même assez capricieuse. Donc elle met les hydroliennes un peu à rude épreuve.
Mais ici, c'est en effet un laboratoire pour aller franchir des étapes, aller vous mettre au large du Cotentin, au large de Ouessant. Il y a aussi des caprices importants de la mère nature.
Le rat blanchard.
Donc ici, on peut essayer ces choses-là. Voilà, exactement. Le rat blanchard étant, entre guillemets, la Mecque des courants en Europe, où beaucoup de turminiers et d'énergéticiens sont en train de
phosphorer. C'est énorme. Quoi.
Exactement, 12 nœuds. Ouais. Sous le pompier, on est quand même déjà à 8 nœuds.
Ah oui.
Donc on teste quasiment en conditions réelles. Du rat blanchard. Et puis donc aujourd'hui, on a un Français qui est là depuis 10 mois, je vous l'ai dit, et depuis peu de temps, depuis 2 mois, un Irlandais d'une société qui s'appelle Design Pro qui vient de tester cette deuxième machine qui est raccordée au réseau. Alors à l'heure actuelle où nous parlons, il y a des électrons qui sont produits par cette Garonne, c'est à peu près une centaine de foyers. Et ce qui est intéressant, c'est que cet environnement leur permet d'avoir une grosse expérience et de pouvoir construire ensuite ces machines. Et on espère évidemment qu'elles seront construites dans des usines en Aquitaine et à Bordeaux.
Et ça peut aller plus loin parce que donc la Polynésie peut être intéressée, la Guyane aussi, Mayotte, etc.
Tout à fait.
On a un marché. Toutes nos îles marchent au fioul.
Des sites isolés, tout à fait. L'objectif étant de décarboner ces sites isolés, ces îles qui consomment beaucoup de fioul aujourd'hui.
EDF commence à s'y mettre, mais ça ne nous intéressait pas du tout les énergies renouvelables sur les îles. Enfin, maintenant, ça commence.
Ça fait son chemin. Ouais, et certaines énergies renouvelables se sont un petit peu cassées les dents. Par exemple, mettre une éolienne dans des zones où il y a des typhons, c'est jamais très simple.
Ah non, pas bon.
Donc la mettre sous l'eau, de façon invisible. C'est quand même assez pratique, notamment quand on a des passes dans des atolls, comme en Polynésie française, par exemple.
Voilà, donc ça aussi, ça fait partie donc, de vos atouts. Donc vous ne le voyez pas, mais enfin, vous avez de l'hydrolienne qui est à côté du pont de Pierre. Parce que
on les voit un petit peu.
Oh, bah oui. On les voit un petit peu ?
D'accord.
Oui, je vais y aller tout à l'heure, alors c'est très bien. Michel Duchesne, je vais me tourner vers vous, parce que vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole. Et donc, vous avez sorti alors, un bouquin assez formidable aux éditions de l'Aube, qui s'appelle « La grande métamorphose de Bordeaux ». Donc vous avez assisté à ça depuis donc 1995, vous êtes aussi donc un des artisans. On a, alors voilà, ce que je disais un peu en préambule, c'est que Bordeaux victime de son succès. Donc comment on essaye quand même, en même temps de densifier, on va dire, cette ville, ce que vous avez essayé de faire, mais ça c'est le Bordeaux intramuros, et puis à côté de ça 28 communes, il y a un étalement urbain, on a un peu l'impression que c'est un peu un mythe de Sisyphe là, donc comment fait-on, combien d'habitants donc, arrivent par an sur Bordeaux, Bordeaux métropole?
15 000 habitants sur la Gironde, dont à peu près un tiers sur la métropole, oui. C'est une ville très attractive. Mais
on a 20-25% de Parisiens, je crois, sur les 5
25% 000. De Parisiens, oui. C'est mais ça. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient.
Oui.
Et le livre, c'est une manière de rappeler qu'il s'est passé quelque chose en 1995, qu'il y a eu une véritable révolution culturelle, une révolution urbaine, et que cette ville, qui était un pur produit des Trente Glorieuses, cette ville était envahie pour la voiture. Juste, petite image. Ici, à cet endroit-là, quelques mètres d'ici, l'agence d'urbanisme sur les quais prévoyait 18 fils de circulation.
Super.
C'est-à-dire que des façades jusqu'au quai...
On allait couvrir la Garonne, quoi. C'était presque ça.
On allait presque couvrir la Garonne. Ouais. Ça veut dire qu'en 1995, cette rupture a permis de transformer la ville. Et Bordeaux est l'une des rares villes qui se soit transformée de manière aussi globale et dans des logiques de développement durable. À l'époque, on ne parlait pas de développement durable, on parlait plutôt d'écologie urbaine. Ce n'est pas la seule ville, mais c'est une des rares villes qui a eu un projet urbain aussi fort et qui finalement aboutit à une ville si agréable.
Alors comment peut-on faire? Parce que donc en même temps, il y a à la fois de la ruralité à peu près à 50%, et puis aussi donc de l'urbanisation donc aussi à peu près à 50%. Et alors comment fait-on? Parce que donc l'étalement urbain, il est quand même là. Et le pas le rêve des maires, mais je veux dire en tout cas de beaucoup de citoyens qui arrivent, c'est de dire attendez, vous êtes gentils, vous densifiez, mais moi j'ai mon rêve de maison individuelle. Alors je sais que c'est pas vous directement ici à Bordeaux même, mais comment on fait au sein de cette Bordeaux métropole avec 28 communes?
Écoutez, dans votre très beau texte d'introduction, très poétique, vous avez rappelé ce qu'est devenue cette ville et d'où elle venait. Aujourd'hui, c'est une formidable réussite, mais il y a des effets pervers à cette réussite. Un de ces effets pervers, mais ce n'est pas seulement lié au projet urbain, au projet bordelais, c'est l'étalement urbain. Il concerne l'ensemble du département et on peut le dire, aujourd'hui en France, on consomme à peu près en urbanisation un département tous les 10 ans.
Ouais, c'est une catastrophe. C'est même malheureusement moins. Tous les 7 ans.
C'est
donc
ça,
on va dire 5000 à 5500 km².
Ici, c'est un peu pareil. On consomme énormément d'espace urbain, énormément d'espace agricole pour de la maison individuelle, peut-être parce que les politiques ne peuvent pas tout faire. Il y a un imaginaire ici et un peu partout en France, dans les pays développés, c'est la volonté d'acquérir une maison individuelle pour un jardin, pour une piscine, peut-être pour plus de tranquillité. Ce que nous essayons de faire sur Bordeaux, sur la métropole, c'est de la densifier. C'est un mot qui déplaît, c'est un mot qui fait un peu peur, mais autant dire les choses très clairement. Mm-hmm. On ne fait pas de densité de manière horizontale. On fait de la densité avec la verticalité, ça veut dire des tours. Et les Bordelais, les habitants de la métropole, n'aiment pas trop les tours. Ils préfèrent les shops, ils préfèrent la maison individuelle. Et je les comprends. En même temps, avec une telle démographie, on est bien obligé d'accueillir les gens qui veulent s'installer ici, les personnes qui veulent s'installer. On fait beaucoup de logements sociaux. La plupart des opérations d'urbanisme aujourd'hui sont composées de près de plus de 50% de logements sociaux. Donc, il y a une volonté de mixité. Vous parliez tout à l'heure du miroir d'eau. C'est un formidable outil de la mixité, le miroir d'eau. Il a été pensé comme un objet patrimonial. Les façades du 18e, ces très belles façades du 18e, des quais de Bordeaux, qui peuvent se comparer d'ailleurs aux quais de Vienne, devaient se refléter dans ce miroir d'eau.
Alors, on va ça ne fonctionne jamais. Pour nos amis, il y en a quelques-uns qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas venus à Bordeaux, on les plaint bien sûr, mais quand même, le miroir d'eau. Donc dites-le ici, évidemment, vous le savez. Mais
le miroir d'eau, c'est un miroir qui a été pensé et inventé par Michel Courajoux, qui est l'architecte paysagiste des quais. Ce miroir d'eau, c'est quelques centimètres d'eau sur un très très grand espace, et il a voulu que ces façades du 18e se reflètent dans ce miroir d'eau avec plusieurs séquences, une séquence de bouillonnement, une séquence de vapeur, mais il n'a pratiquement jamais fonctionné comme il devait fonctionner, puisque les habitants de Bordeaux et de la métropole et d'ailleurs se sont appropriés cet espace, et aujourd'hui on met ses deux pieds dans le miroir d'eau. Et pour devenir bordelais, je le dis souvent, d'où qu'on vienne, qui que l'on soit, eh bien,
c'est une intronisation,
mettre
quoi.
Ses pieds dans c'est le ça. Miroir d'eau, c'est une manière de devenir bordelais, c'est une forme d'intronisation.
C'est une manière dans le miroir aussi... d'eau et un verre de Bordeaux à la main.
Ça, chacun, chacun peut décider par lui-même. Donc, moi, ce qui me paraît important, c'est que pendant longtemps, on a parlé du Triangle d'Or, on a parlé du centre de Bordeaux comme le lieu où il fallait se rendre. Aujourd'hui, il faut se rendre sur le miroir d'eau. Et le projet urbain et le miroir d'eau, c'est une volonté de dire que nous avons voulu développer de la mixité. Alors, Michel, et que la ville est accessible à tous.
Je vous accélère parce qu'on va parler aussi maintenant aussi un peu plus de la mobilité. Mais auparavant, donc Pauline Bois. voyez, donc vous qui observez cela aussi comme journaliste.
Oui, en fait, c'est vrai qu'on parle souvent du rêve de la maison en périphérie avec la piscine et le jardin, mais pour beaucoup aussi, l'étalement urbain, c'est la conséquence de quelque chose de subi. Hein. Si vous voulez, les prix de l'immobilier, il ne faut pas le nier non plus, ont doublé en 10 ans à Bordeaux, du fait de cette attractivité, de cette rénovation, c'est vrai, il faut le dire, exceptionnelle. Mais,
et voilà, ça nous donne d'ailleurs aussi des gilets jaunes, aussi pour cette raison-là, enfin, entre autres, parce qu'il y en a plein qui sont mêlés, mais enfin, ça donne ça aussi.
Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de gens mais qui peuvent plus tout simplement se loger dans Bordeaux aujourd'hui. Les prix sont trop élevés, donc on est obligé d'aller à la périphérie et ça crée tous les problèmes annexes hein, de déplacement. La rocade est régulièrement bouchée, on le sait. Donc voilà, ce n'est pas que né d'un rêve.
Il fut un temps où cette ville était à l'abandon. Il fut un temps où il y avait sur Bordeaux 15 000 appartements vides. Donc le projet urbain a permis de recentrer le centre-ville,
a permis de faire revenir
les habitants dans cette ville.
Ça a très bien marché. Maintenant, effectivement, parlons effectivement de
la ville. C'est le logement social. Voilà. Déjà, c'est une priorité. Permettre la mixité et permettre à tout le monde d'habiter dans cette ville. La deuxième chose, c'est la construction. On doit construire des logements, non pas dans la ville de Pierre, non pas à l'intérieur du centre-ville, mais dans toutes les opérations de ZAC ou autres qui se trouvent en face de nous, par exemple, aujourd'hui. Et là, on construit des milliers d'appartements pour accueillir tout le monde.
Michel Duchesne, il y a aussi un truc assez intéressant, c'est que c'est un territoire qui a l'ambition d'être à énergie positive. Donc là aussi, alors à la fois donc rénovation d'un côté et mobilité, on va dire, de l'autre. Je sais que vous avez un réseau de chaleur qui peut être performant, que en face, sur la rive droite, on va s'occuper de géothermie en plongeant donc à 1700 mètres de profondeur pour pouvoir extraire de la chaleur.
Ce n'est pas rien.
C'est pas rien du tout. Vous avez aussi d'ailleurs, ça c'est assez remarquable, vous n'êtes pas forcément les premiers, mais peu importe, vous avez un cadastre solaire. J'ai trouvé ça, moi, assez remarquable. C'est-à-dire que vous avez une simulation technique et financière. Alors, simulation technique pour voir si vous avez donc la bonne orientation, si vous avez des ombres portées, ceci sur les 28 communes, ce qui veut dire qu'après on peut regarder si je suis éligible, si ça vaut le coup ou non, mais quand même il y a ce cadastre solaire, ça se trouve vraiment sur Internet. On a dénombré qu'il y avait quand même 21 millions de mètres carrés possibles, je dis bien possibles, sur l'ensemble de Bordeaux Métropole, ce qui représenterait...
Vous allez faire peur au Bordeaux.
Non, mais ça représenterait 40% d'énergie électrique quand même. Voilà, donc c'est pas pour ça que c'est
faire
fait pour
de
demain.
Bordeaux une ville à énergie positive,
ouais.
C'est-à-dire que nous voulons produire plus d'énergie que nous n'en consommons. C'est un enjeu fort, c'est un enjeu que l'on voudra respecter dans le temps, mais nous mettons tous les moyens aujourd'hui pour qu'il se réalise. Mais c'est un peu comme le vélo, vous évoquiez le vélo. Moi, j'ai connu une ville où, lorsqu'on était arrêté devant un feu, on était quoi ? 1, 2 au vélo. Il n'y a pas si longtemps, le maire arrivait en place de la Comédie, sortant de l'Opéra, déclarait « on se croirait en Chine ». Ça veut dire que Bordeaux est devenu une vraie ville vélo.
Si c'est Bordeaux, on se croirait en Chine, c'est formidable. Oui.
Ben voilà, c'est la réalité, c'est le vélo qui s'est développé. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre aussi ? C'est pour rappeler ça, parce qu'un certain nombre de personnes qui s'installent à Bordeaux pensent que la ville commence avec eux. Non, il s'est passé quelque chose, il faut le savoir. Il faut s'en nourrir de cette histoire pour aller plus loin.
Alors, étalement urbain, comment on fait là d'un côté, évidemment, on comprend bien que le vélo fonctionne bien. On peut en faire maintenant en incitant les gens avec des bonnes pistes cyclables. Et je tiens à le dire, vous avez à la fois des bandes cyclables, vous avez des pistes cyclables, ça marche pas mal. Mais tout le monde n'est pas encore complètement adepte de cela. Comment on essaye de désengorger ? Je disais un peu que c'était un peu les tonneaux des Danaïdes, enfin, cette affaire-là. Donc, comment fait-on ? Donc, entre l'attractivité...
Pour la ville et pour la métropole, ouais. Aujourd'hui, dans le centre-ville, les déplacements vélo et piétons sont plus importants que l'ensemble de tous les autres déplacements. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est avoir une politique plus forte en ce qui se concerne la périphérie, en particulier pour éviter cet étalement urbain, peut-être, pourquoi pas, éviter pendant un certain délai de ne plus construire sur des espaces qui ne sont pas encore construits, par exemple.
Là, c'est chaud. Là, c'est très bien. Philippe Barre.
Oui, comme le dit Michel Duchesne, on a eu un projet urbain formidable qui a commencé en 95 et jusqu'en 2012-2014, ça a été une vraie métamorphose, en effet, avec des réussites comme celle des quais, comme les quartiers difficiles qui ont été intégrés de manière sans qu'on mette des caméras partout. On a une vraie paix sociale à Bordeaux qui a été générée par ce projet urbain magnifique. Et pour autant... on a un peu le revers de la médaille depuis quelques années. On construit trop vite, trop mal désormais. On a une frénésie immobilière avec une spéculation qui va bon train et notamment beaucoup de défiscalisation. C'est un vrai risque pour notre métropole aujourd'hui et il faut en prendre conscience pour que la modération bordelaise reprenne le dessus.
Voire de muséification aussi du centre-ville, ça,
exactement,
ça peut
aussi touristication.
Pauline Boyer.
Oui, effectivement, on dit il y a eu un observatoire Airbnb qui a été créé par un élu d'opposition qui note, qui a mis en relation le nombre de d'offres, si vous voulez, d'annonces Airbnb par rapport au nombre de logements et d'habitations. Et Bordeaux serait la deuxième ville la plus Airbnbisée. C'est difficile à dire parce que ça n'existe pas, je crois, comme mot.
C'est pas grave, vous l'avez inventé.
Donc voilà, de France. Donc c'est vrai qu'il y a cette problématique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, comme dit Philippe Barre, de la spéculation, qui aujourd'hui utilisent leur logement tout simplement pour attirer les touristes. Parce que
Ce soit à Bordeaux ou à Paris ou ailleurs.
Voilà, donc la métropole a mis en place des mesures. Et aujourd'hui, elle essaie de lutter, des mesures concrètes.
Merci beaucoup, Pauline Boyer. Un grand merci à toutes. Vous pouvez les applaudir. Ils sont, voilà. Et applaudissez-vous vous-même, parce que je sais que vous faites du boulot sur le terrain. La grande métamorphose de Bordeaux. Merci à nos amis de France Bleu, Gironde, Jean-François Cousson, Antoine Muel, Christophe Délis, Thomas Lehété, Alice Michaud, Camille Blanès, mon mari Isatrice, Anne Gouzon qui nourrit les sites. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de la COP 24. Ça va être chaud, ça aussi, avec Valérie Masson-Delmotte, qui est une formidable climatologue. On vous souhaite le meilleur, et il ne nous reste plus qu'à écouter. Oh, retenez ce petit message.